Découvrez MyMatch en exclusivité sur Winamax. Créez votre pari sur mesure en choisissant plusieurs sélections sur un même match de football et obtenez votre cote personnalisée. Buteur, score exact, nombre de buts marqués. Avec MyMatch, donnez une cote à votre intuition.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, sur la chaîne After-Foot sur YouTube. Nous sommes en direct bien sûr dans l'After, premier podcast de France, première radio de France. Le soir, l'émission qui vous garantit une liberté d'expression totale à tous les supporters. Daniel Rieu est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là, salut Florent.
Salut à tous.
Jimmy Brown est là, salut Jimmy.
Salut Gilbert, bonsoir à tous.
L'événement ce soir les gars, c'est la présence parmi nous de Pablo Longoria. Il est en duplex avec nous depuis Marseille en compagnie de Florent Germain. Bonsoir Florent d'abord, qui est notre correspondant à Marseille bien
oui,
sûr.
Oui, salut les amis, salut à tous, salut en belle compagnie ici à la commanderie à côté de Pablo Longoria.
Pablo Longoria, bonsoir.
Eh bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir.
Merci d'être avec nous Pablo, d'autant bonsoir. Que c'est une journée chargée à Marseille puisque le Mercato se termine officiellement dans une heure, donc on est ravis de vous avoir avec nous pour parler Mercato, parler de la saison de Marseille, de la gouvernance du foot français, de tous les sujets du moment bien sûr, et puis après 23h on ira faire un tour du Mercato dans tous les autres clubs avec Fabrice Hawkins qui sera avec nous, et puis si vous voulez poser vos questions à Pablo Longoria, le chat YouTube est là, Direct Studio est là,
on également. Je pense que le Mercato a été tellement chargé, Fabrice Hawkins ce soir minuit jette le téléphone.
Oui.
Il ne marche plus son téléphone.
Exactement. Et
c'était la folie. Il y a tellement eu de mouvements dans les clubs ce week-end. Je pense qu'il n'a pas dormi.
Bah, Rennes a battu le record de Lyon l'hiver dernier. Lyon l'hiver dernier avait fait 7 arrivées. Rennes en est à 10. Donc on en parlera tout à l'heure parce que c'est assez étonnant en effet. Bon, démarrons sur Marseille, évidemment. Pablo Longoria, vous aussi, vous avez eu une journée chargée avec de belles arrivées.
Bon, quand même une journée chargée. Dans ces moments, bon, ça manque qu'une heure à la fermeture du Mercato. Pour petit rappel, ça clôture aujourd'hui à 22h59. Donc, tout le monde en paix, attention, comme je m'imagine tous les restes du club. Journée chargée avec un potentiel mouvement en arrivée, une signature et surtout des sorties comme celle de Bamomité, qui s'est déjà officialisée. Et bon, on attend un peu la situation d'Isma Koné.
Oui, Pablo Longoria me confiait, Gilbert, qu'il avait donné toutes les instructions concernant Ismaël Bennacer, parce que c'est l'un des dossiers forts. On vous en parle depuis le milieu de l'après-midi. Effectivement, il y a un accord, je crois, entre toutes les parties, mais simplement, il faut que ça travaille avec les avocats. Le dossier est dans les mains maintenant des avocats, Pablo.
On est dans les mains maintenant de toute la documentation, de tout le travail, de tous les juristes, de tous les déclubs. Donc, on espère d'arriver bien au gong.
Donc, bon. Avant 23h, on dirait dans l'after, on aura la confirmation que c'est bon, normalement.
Ou pas.
Qui ça? On va considérer que c'est fait. Pablo Longoria, personnellement, je ne m'attendais pas à autant de mouvements dans ce mercato d'hiver parce que l'équipe fonctionne bien, elle est installée à la deuxième place. Sauf catastrophe monumentale, l'OM sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors ma question c'est, est-ce que justement c'est parce qu'on est obligé d'envisager que l'OM soit en Ligue des Champions l'année prochaine qu'on prend par anticipation déjà des mesures en pensant à construire l'équipe en pensant à la Ligue des Champions déjà l'année prochaine parce qu'il faut anticiper?
Non, pour moi... Naturellement, c'est un mix de situations, non? C'est le travail dans l'anticipation pour l'avenir, ça c'est bien sûr. Mais c'est surtout aussi de chercher de régler des différentes situations avec des temps de jeu limités sur des différents joueurs. Et spécialement chercher toujours de renforcer l'équipe dans un mercato, qu'on peut dire que tous les mercatos dans les mois de janvier sont toujours compliqués. Tout d'abord, ça manque encore 14 matchs. On doit rester compétitif, on doit rester les pieds sur terre, continuer à travailler, continuer à faire les boulots.
Alors vous parliez de Koné tout à l'heure, donc Ismaël Koné, qui lui part à Rennes, un prépayant d'un million d'euros avec une option d'achat de 14 millions. Là, c'est les chiffres de nos reporters, hein, notamment de Florent. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres, Pablo, vous pouvez nous expliquer que ce n'est pas les bons, hein, mais voilà les chiffres qu'on a en tout cas. Bennacer, pourquoi Bennacer dans un secteur de jeu où vous avez déjà pas mal de monde, puisque Rongier, Hojberg, Rabiot...
Rabiot qui à la base est un milieu de terrain quand même.
Bilal Nadir qui est en pleine éclosion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde au milieu.
Donc pourquoi faire venir ce joueur de Milan?
C'est vrai qu'on joue avec des lignes dans le milieu du terrain dans lesquelles Rabiot il joue un cran au-dessus, dans ses positions aussi avec Greenwood. C'est vrai qu'on considère, avec tous les différents mouvements, non, parce que c'est vrai qu'on a cherché de remplacer Lilian Brassier. Il arrive à Luis Felipe, qui peut remplacer théoriquement Bamou Meïté. Donc, ça arrive un moment dans lequel, si tu considères Geoffrey Kondogbia un défenseur central, c'est vrai que pour avoir plus d'alternatives à donner au coach dans le milieu de terrain, après, comme toujours, c'est à lui de faire ses choix, tu dois avoir des différents profils au milieu de terrain. Et on considère qu'un joueur organisateur, un numéro 6, c'est quelque chose d'intéressant dans lequel on pouvait donner au coach un joueur encore complémentaire avec des caractéristiques et ça marche bien. On croit avec le style de jeu de Roberto De Zerbi. Donc, ça nous semblait intéressant de pouvoir approfondir dans une opération comme ça.
Et dites-moi, il y a des
toujours en attente toujours de que tous les documents soient bien.
Oui, signés. Bien sûr, oui, en attente de l'officialisation.
On se rend compte quand même, et finalement ça fait 3 ans que vous êtes à Marseille, que c'est pas toujours facile de définir le profil du joueur qui va s'épanouir à l'OM, parce que on en a vu arriver et repartir. Pour l'instant, vous vous en tirez bien parce que vous arrivez à revendre au même prix que vous avez acheté, même des joueurs qui n'ont pas réussi, donc ça c'est positif. Mais il y a des profils qui ont du mal. Cette année, on a vu Wai, pas fait pour l'OM, Brassier, pas fait pour l'OM. Au moment où vous les prenez, vous n'arrivez pas à vous rendre compte qu'ils ne vont pas y arriver, que ce n'est pas un contexte fait pour eux?
Normalement, dans les moments que tu signes un joueur, tu considères et tu es convaincu à 100% que ce sont des joueurs qui vont te donner de la performance sportive.
Oui.
Après, comme vous savez, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre, Marseille, c'est un contexte particulier, l'OM, c'est un contexte particulier, spécialement les niveaux d'attente qu'il y a toujours autour du club, c'est un niveau de pression qui s'est élevé. C'est quelque chose dans lequel tu dois avoir en considération. Il y a des joueurs que le mental, la performance, le travail, la quotidianité les fait bien être à l'OM. Parfois, il y a des situations que tu dois chercher de corriger pour le bien de tout le monde. Spécialement toujours en tenant en considération un bilan financier que toujours tu dois rentrer dans tous les différents paliers, non?
Mais c'est vrai que, pour prolonger la question de Daniel à l'instant, quand on regarde les joueurs, Pablo, qui donnent vraiment entière satisfaction, ce sont des joueurs presque confirmés déjà. Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood dans un registre un petit peu différent, mais il n'y avait aucun doute sur sa qualité. Je pourrais rajouter même Geronimo Rulli. Quelque part, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut réussir à Marseille que quand on a déjà ce background, cette expérience, et que parfois le défi il est trop relevé pour des joueurs qui sont des paris, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur lesquels vous avez presque acté un échec au bout de 6 mois.
Mais à dire la vérité, à Marseille, il faut toujours du temps, non? L'exemple, ça peut être Luis Enrique. Si on prend un exemple d'un joueur qui a subi des difficultés initiales, après avec un prêt au Botafogo, petit à petit, tu t'adaptes à tous les niveaux compétitifs qu'il y a dans les clubs, non? Pour moi, c'est une question simple. Et c'est aussi une partie de l'analyse qu'on doit faire. C'est vrai que pour jouer à l'OM et dans un stade comme le Vélodrome, que c'est magique, non? Hier, le coach l'a dit, tu as besoin d'avoir une personnalité qui est très forte. Au même moment, l'économie actuelle du monde du football, ça t'oblige à faire du trading des joueurs, à chercher des plus-values, à chercher de faire un modèle économique dans lequel tu dois toujours penser en des situations qui sont très importantes, non? Numéro 1, c'est la trésorerie, que c'est la demande la plus forte à court terme. Par contre, tu dois penser aussi sur une question de compte de résultats à la fin de la saison dans laquelle tu dois chercher, quand même, avec toute la problématique, on peut rentrer plus tard naturellement, de colmer un peu les déficits qu'il a le football français dans ce moment et que c'est quelque chose dans lequel, dans ta compte de résultats, la plus-value sur les différents joueurs, c'est quelque chose que c'est fondamental, je crois, pour la totalité des clubs français.
Et Pablo Longoria, une question sur Pogba, puisque le nom a beaucoup été cité dans le mercato possible, le mercato marseillais. Est-ce qu'il y a eu une chance, à un moment ou à un autre, que Pogba rejoigne l'OM? Parce que là, vous parlez de personnalité. Pogba, il a la personnalité et l'expérience pour s'imposer à Marseille.
Est-ce qu'il a encore le niveau? C'est autre chose.
Écoutez, moi, quand je parle de Paul, je parle toujours de quelqu'un que j'apprécie énormément. et dans lesquels j'ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus et je porte un respect énorme. C'est vrai qu'il y a des circonstances dans lesquelles une sanction sportive jusqu'à le mois de mars, dans lesquelles tu dois toujours chercher de comment maximiser tous tes ressources économiques à court terme pour bien finir la saison.
Donc ça veut dire que Pogba...
La réponse, Florent.
Ouais. C'est marrant comme il y a un silence.
En fait, ça veut dire que ça se
fait. Il y a quelque chose.
Il ne viendra pas, mais
si ça se fait, ce sera peut-être l'été prochain.
Mais là, parce qu'il y a beaucoup de supporters, évidemment, qui l'espéraient, qui attendaient, qui espéraient peut-être une surprise même pour aujourd'hui, pourquoi pas, si ça avait été fait dans le plus grand secret. Mais ça veut dire que là, économiquement, ça n'est pas possible ou sportivement, ça n'est pas votre souhait?
Non, c'est une question plutôt de mettre en considération tous les différents questions, non? Quel est l'avantage de porter un joueur avec ses caractères, ses experts internationaux et ses niveaux footballistiques et aussi caractériels? Je crois que c'est important. Mais en même temps, tu dois tenir les équilibres à l'intérieur de ton groupe, tu dois tenir une dynamique sportive. Je n'étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive. Après, dans les moments qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les marchés, j'ai fait une conférence de presse dans laquelle Flo il était présent. L'important, c'est donner de la continuité à une bonne dynamique sportive. Au même moment que tu dois tenir les comptes économiques et au même moment que tu dois tenir aussi la volonté qu'on a tout le monde, de Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi, à moi personnellement, de chercher de donner les meilleures armes possibles à l'entraîneur. Non.
Et après, juste une anecdote, c'est que je crois que ça remonte à un an et demi, il y avait une rumeur un peu folle, Cristiano Ronaldo, l'OM doit se positionner, etc. Et je me souviens, ça m'avait frappé, Pablo, parce que bah, forcément, nous, journalistes, on faisait le métier, on passait des coups de fil, et malgré tout, vous vouliez jamais dire non, l'OM ne va pas se positionner sur Cristiano Ronaldo. C'est comme là, j'ai l'impression que vous voulez pas dire non, l'OM ne va pas aller sur Paul Pogba. Vous voulez pas, presque pas prononcer cette phrase-là. Alors je sais pas si ça entretient un faux suspense, mais en tout cas, c'est comme si ne pas insulter l'avenir. Et peut-être que vous y voyez, vous qui respectez beaucoup les joueurs, je le sais, un manque de respect envers telle ou telle grande star internationale de dire non, finalement, ça nous intéresse pas. Pourquoi vous le dites pas franchement dans ce cas-là?
Non, ce sont des circonstances différentes, non? Je ne voulais pas, dans ce moment, que la rumeur était là-bas fabriquée pour Cristiano Ronaldo artificiellement. Pour moi, c'était un manque de respect dans des cas. Un, pour tous tes supporters et pour tous les clubs dans lesquels tu dis « Ah non, je dénie que Cristiano Ronaldo il va venir au club ». Pour moi, ça manque de sens parce que jamais il y a une opportunité, jamais il y a une possibilité réelle de pouvoir faire les joueurs. Et en même temps, je crois que comme président de l'Olympique de Marseille, comme Pablo Longoria à titre individuel, dire ah, l'Olympique de Marseille ne va pas faire Cristiano Ronaldo, ça me ressemblerait un manque total de respect dans les gens les plus importants du monde du football.
Alors, Pablo, il y a juste, Daniel, avant que tu te donnes la parole, il y a juste quand même deux joueurs qu'on n'a pas cités là, dans le mercato aujourd'hui. C'est l'arrivée donc d'Amar Dedic, Florent, qui arrive, qui était un défenseur bosniaque. Et puis surtout Anselmino, dont on parlait encore hier, ne viendra pas puisque Chelsea a déjà rempli son quota de prêt. Donc finalement, Anselmino n'ira pas à Marseille. Tu nous confirmes, Flo, depuis la commanderie hein.
Oui, mais je crois que Pablo a une précision là-dessus, concernant Anselmino notamment.
Non, la précision, c'est que quand même, on est dans une industrie différente, Chelsea, le reste du club, je crois, non. Et c'est une critique que j'ai fait ouvertement, et spécialement parce que Chelsea, aujourd'hui même, ils sont libérés des positions de prêt, comme Weasley, qui est revenu de prêt à aider Strasbourg, il est parti à Watford, et il y a les mouvements qui sont récupérés de prêt d'Atro Fofana, qui est revenu en Angleterre, donc l'excuse de qu'il n'y a pas de slot des prêts, quand même, c'est pas cohérent.
Oui, parce que vous le vouliez, c'est un jeune joueur de 19 ans qui est promis un bel avenir, vous êtes déçu.
Non, on avait fait une offre, après chaque club, il a ses dynamiques, ses choses, l'unique chose que je regrette quand même, c'est la manque de transparence parfois entre les différents clubs, non.
Après, il y a tellement de mouvements à Chelsea, il y a notamment Joao Félix qui va peut-être sortir à Milan sur les derniers instants du mercato, c'est toujours compliqué.
Dans la salle italienne, c'était annoncé ce week-end par Joao Félix. Pablo Longoria, depuis que vous êtes à l'OM, vous avez été entouré par beaucoup de gens et de façon très différente. J'ai l'impression que jamais vous n'avez été aussi bien entouré que maintenant avec ce trio donc constitué par vous, Fabrizio Ravanelli et Mehdi Benatia. Je parle pas du coach, ça me semble un petit peu à part, mais on va dire les la direction, elle est à trois têtes. Vous êtes le président, vous avez ces deux hommes-là à vos côtés. Qu'est-ce qu'ils font et pourquoi on a l'impression qu'ils donnent à l'OM une structure beaucoup plus solide qu'avant?
C'est surtout une question institutionnelle de la part de Fabrizio Ravanelli, dans laquelle être entouré par un légende du club, être entouré pour une personne qui, pour moi, ça me donne beaucoup de bons conseils, ça me ramène de la calme, ça me ramène toujours les bonnes paroles et une vision beaucoup plus froide, parfois, que la mienne. Vous savez que parfois, je suis très passionnel. Et dans cette situation, c'est quelque chose qu'à niveau institutionnel, c'est une image forte du club, comme j'ai vécu dans des autres clubs, comme par exemple en Italie ou comme par exemple à Valence, qu'on avait toujours des légendes du club qui participaient dans la vie quotidienne du club. Je crois que ce sens d'identification avec les anciens joueurs, c'est quelque chose de très important. Au même moment, sur la partie sportive, je suis très content de pouvoir avoir Mehdi Benassia, spécialement parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, il est un des meilleurs en Europe. Absolument, la façon dans laquelle il travaille, les efforts, la passion qu'il met dans le quotidien tous les jours, les réseaux qu'il a pour pouvoir convaincre quels que soient les joueurs, combien de temps il met à dédication chaque journée, les énergies qu'il met au sein de ce projet, c'est quelque chose que je tiens seulement à remercier. Et c'est un luxe pour l'Olympique de Marseille de pouvoir avoir quelqu'un avec les valeurs humaines, avec les valeurs professionnelles et avec la passion et les efforts qu'on met.
Un mot, Pablo, justement, sur ça, sur ce, on va dire, la gouvernance et peut-être sur le désir de continuité. J'ai l'impression qu'il y a un paradoxe entre votre désir que vous avez déjà expliqué dans la revue de l'After notamment et ailleurs, de continuité, d'un projet qui s'inscrit sur la durée, et c'est votre cas, vous vous inscrivez vous sur la durée, et paradoxalement, des intersaisons, des changements d'entraîneurs déjà, des intersaisons mouvementées, des changements de joueurs fréquents. Là, est-ce que vous arrivez enfin à ce que vous souhaitiez, à savoir une forme de stabilité avec un entraîneur qui reste, un trio là autour de vous, comme l'a dit Daniel, et peut-être une ossature même au niveau de l'équipe, alors qu'on avait l'impression que vous refaisiez tapis, pour prendre une expression de poker, à chaque fois, à chaque intersaison.
C'est quelque chose que parfois tu subis, non? Et il faut tout contextualiser, je crois. Spécialement parce que pour être à l'Olympique de Marseille, tu as besoin d'avoir une énergie complètement différente. Et comme j'ai dit dans beaucoup de conversations privées ou publiques, en allant à l'Olympique de Marseille, ça peut rassembler à trois années dans des différents clubs, non? Pour ça qu'il faut avoir une énergie complètement différente. Au même moment, c'est mon souhait. C'est notre souhait de pouvoir donner continuité parce que, sincèrement, j'ai une équipe de travail avec Mehdi, avec Roberto De Zerbi, avec toute l'organisation qu'on a créée aussi autour du coach, avec Giovanni Rossi, avec Marcello Iaia comme responsable de la performance. Je crois, et sincèrement, qu'on est dans la bonne voie pour donner stabilité ici au sein de l'Olympique de Marseille. C'est la chose qu'on souhaite énormément parce que le football, on peut dire des choses. Tellement de changements, c'est négatif. Et je l'admets. La continuité et la stabilité, c'est la chose que je crois que tous les clubs ont cherché en Europe. L'exemple le plus clair, ça peut être l'Atlético de Madrid et comment il s'est grandi les dernières saisons avec un certain type de continuité. Ça, c'était pour moi toujours l'exemple que j'ai utilisé en Espagne, que j'ai continué à utiliser maintenant. C'est vrai que dans des ambiances tellement passionnelles, dans lesquelles tous tes sentiments, toutes tes passions, toutes les énergies que tu mets dans le quotidien, tu passes de 0 à 100 à Marseille dans une vitesse que c'est énorme. Et ça, psychologiquement, c'est quelque chose que c'est difficile pour quel que soit l'être humain. Non?